rediffusion d'une émission de Principe Actif. Une rediffusion.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Bien, bonjour à tous.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Oh là, je vais baisser la musique.
Oh, c'est pas désagréable, Mireille.
Alors, bien, pour cette nouvelle rentrée, donc là, il y a Philippe et là, Dominique aussi. Et donc, pour cette nouvelle rentrée, eh bien, on va parler du polar. Alors, on a déjà fait des émissions sur Siménon, sur Agatha Christie.
On a donné dans le genre. Déjà.
Voilà, c'est ça. Et comme il nous restait quelques petites choses en réserve, bah, on s'est dit, allez, pour la rentrée, on va continuer sur cette lancée. Et donc, mais là, nous allons vous présenter de nouveau quelques auteurs
spécialistes du genre.
Voilà,
alors, ça. Polar, pour la petite histoire, Mireille, c'est un mot inventé dans les années 60. C'est la contraction du mot police associé au suffixe art, tout simplement. Mais c'était bien de le rappeler.
L'art de la police. Alors, on va commencer sur la Riviera anglaise. C'est là que naît Agatha Miller, le 15 septembre 1890, d'un père américain et d'une mère anglaise. Elle grandit donc à Torquay, entre Nursie, sa gouvernante, et Jane, la cuisinière. De fait, les personnages auxquels elle donne naissance, tout au long de ses 66 romans, trouvent souvent l'inspiration dans l'entourage de son enfance. Elle obtient un diplôme de préparatrice en pharmacie en avril 1917, et elle acquiert alors des connaissances très utiles à sa future carrière de romancière. Une trentaine de victimes font en effet les frais de cette efficacité pharmaceutique entre la strychnine, le cyanure, l'arsenic, le thallium, la nicotine, ricin, digitaline.
Que des bonnes choses.
Voilà, c'est ça.
À consommer à jeun le matin.
Il manque la ciguë.
Alors, voilà, bah, puis plein d'autres, hein, mais la liste était longue, alors j'ai...
Oui, parce qu'à l'époque, les préparateurs en pharmacie préparaient réellement des potions.
Bah, des potions.
Donc, c'était voilà. Pas mal comme métier pour écrire du polar.
Bah, ça aide quoi. Alors je vous propose tout d'abord d'écouter un bref extrait d'un livre donc écrit par cette Agatha Miller et vous allez peut-être trouver après qui elle est. Alors donc le début de la nouvelle que vous allez entendre là s'appelle Droit d'asile.
Droit d'asile. Les bras chargés de chrysanthèmes, la femme du pasteur tourna le coin du presbytère. Une bonne dose de glèbe fertile adhérait aux semelles de ses solides brodequins et un peu de terre lui maculait le bout du nez sans qu'elle s'en souciât le moins du monde. Elle batailla quelque peu pour ouvrir la grille rouillée du presbytère à demi détachée de ses gonds. Un coup de vent espiègle, jouant avec son vieux chapeau de feutre cabossé, lui conféra une inclinaison plus improbable encore qu'elle ne l'avait été jusque-là. « Ah, oh, zut et flûte !» tempéta Bunch. Cramponnant ses chrysanthèmes, elle traversa le cimetière et atteignit la porte de l'église. Il faisait un vrai temps de novembre, plus humide que réellement frais. Les nuages galopant à travers le ciel faisaient entrevoir quelques lambeaux d'azur. Mais l'intérieur de l'église était sombre et glacé. On ne la chauffait jamais en dehors des offices. « Brrr !» frissonna Bunch. « Je ferais bien de me dépêcher. Je n'ai aucune envie de mourir frigorifié. » Avec une rapidité née d'une longue pratique, elle rassembla la tiraille nécessaire. Eau, vase, pique-fleurs. « Comme je préférais avoir des lisses !» se disait Bunch, tandis que ses doigts preste maniaient les tiges. « Je suis lasse de ces chrysanthèmes rabougris. » Il n'y avait rien de particulièrement original ou artistique dans ses compositions florales. Bunch Harmon ignorait l'originalité et eût été fort troublé de posséder une once de sens artistique. Mais ce n'en était pas moins de jolis bouquets, plaisants à regarder. Portant ses vases avec précaution, Punch remonta le bas-côté. Elle se dirigea vers l'hôtel quand le soleil se montra. Il brillait à travers le pulse de couleurs criardes, en majorité des rouges et des bleus, du vitrail est, dont de quelques paroissiens fortunés du siècle passé. L'effet était saisissant dans son opulence soudaine. « On dirait des saphirs et des rubis », se dit Bunch. Soudain, elle s'arrêta et regarda droit devant elle. Sur les marches du chœur, une forme sombre était recroquevillée. Déposant soigneusement ses fleurs, Bunch alla voir de plus près. C'était un homme qui était couché là, pelotonné sur lui-même. Bunch s'agenouilla de son côté, le retourna avec douceur et lui prit le pouls. Un pouls si faible et vacillant qu'il en était éloquent au même titre que le visage à la pâleur verdâtre. Nul doute que l'homme était en train de mourir. L'individu, vêtu d'un complet noir et limé, pouvait avoir 45 ans. Elle lâcha le poignet flasque qu'elle avait tenu entre ses doigts et chercha l'autre main. Crispé sur un mouchoir roulé en boule, le poing du moribond était plaqué sur sa poitrine, et tout autour s'étalaient des taches d'un liquide brunâtre, déjà sec, et qui, Bunch n'en doutait pas, n'était autre que du sang. Jusque-là, les yeux de l'homme étaient restés clos, mais il les rouvrit soudain et dévisagea Bunch. Nulle fièvre, nulle hébétude dans ce regard, au contraire vif et intelligent. Les lèvres de l'inconnu remuèrent, et Bunch se pencha pour saisir les mots qu'il allait s'en échapper. Ou plutôt le mot, car il n'en prononça qu'un. Asile. Il avait eu un pauvre sourire en le murmurant, ce mot. Puis, tandis qu'il exhalait un soupir qui semblait provenir du tréfonds de lui-même, ses paupières se refermèrent. Bunch lui reprit le pouls. Il battait toujours, mais plus faiblement et de manière plus intermittente. « Ne bougez pas, lui dit Bunch en se relevant. N'essayez pas de bouger, je vais chercher de l'aide. » L'homme souleva à nouveau les paupières, mais toute son attention semblait maintenant concentrée sur les feux rouges et bleus du vitrail est. Il murmura quelque chose que Bunch ne comprit pas. Elle crut, stupéfaite, qu'il pouvait s'agir du prénom de son mari. « Ruben ? » balbutia-t-elle. « C'est pour voir Ruben que vous êtes venu ici ?» Elle n'obtint pas de réponse. L'inconnu reposait, les yeux clos, tandis que sa respiration s'amenuisait encore.
Voilà, alors est-ce que vous avez reconnu qui était l'autrice?
Bah, on a une petite idée, hein.
D'abord, vous avez une petite idée.
Bon.
Alors, les auditeurs, je ne sais pas. Mais certains d'entre vous auront sans doute reconnu le style de la reine du crime, Agatha Christie.
Déjà, avec le prénom d'Agatha, on est un petit peu sur la ligne.
C'est la même personne.
Alors, on l'a surnommée aussi la duchesse de la mort.
Alors, Droit d'asile, c'est une nouvelle policière d'Agatha Christie qui met en scène Miss Marple. Alors, elle a été publiée les 12 et 19 septembre 1954 dans la revue This Week aux États-Unis. Et cette nouvelle a été reprise en recueil en 1961 dans Double Sin and Other Story aux États-Unis.
Double Sin, pardon Mireille, c'est Double Péché pour la traduction.
Très bien, merci beaucoup.
Ah bah oui.
Elle a été publiée pour la première fois en France, dans le recueil Marple, Poirot et Pine et les autres, en 1986. Donc c'est dans ce livre-là que j'ai pris l'extrait. La publication en revue au Royaume-Uni a été mise aux enchères et les fonds récoltés ont servi à la restauration de l'abbaye de Westminster.
Belle cause.
Pas moins. Mais alors remontons un petit peu dans le temps, donc le 3 décembre 1926, Agatha Christie quitte sa maison au volant de sa chère voiture, une Maurice Collet, qu'elle abandonne près de Guildford, avant de s'évaporer, comme dans un roman. Et grâce à un musicien qui la reconnaît, Agatha est finalement retrouvée le 14 décembre à Harrogate, où elle séjournait à l'hôtel hydropathique sous un faux nom.
Oui, 11 jours de disparition quand même.
Bah oui,
et Harrogate, c'est beaucoup plus au nord par rapport à l'endroit d'où elle est partie. Donc on peut préciser qu'elle venait de perdre sa mère en plus de ses problèmes de couple.
Voilà.
Donc il y avait peut-être un petit coup de déprime.
Que c'était un coup monté pour se venger de la demande de séparation formulée par son mari Archibald, on ne sait pas. Agatha a toujours laissé planer le mystère. Mais durant sa disparition, une battue va être organisée, mobilisant quand même plus de 300 personnes. Deux avions survolent la région et le Daily News propose une prime de 100 livres pour toute information susceptible d'aider à retrouver la romancière. Même le célèbre romancier Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, recourt au spiritisme pour localiser Agatha. Et en confiant à Horace Leaf, médium et psychométriste, un gant de celle-ci afin de déterminer si elle est toujours en vie. Mais malgré tous ses efforts, durant 11 jours, les recherches vont demeurer infructueuses.
Oui, en fait, c'est une superbe opération de publicité. Hein. Elle était quand même assez fine hein, dans son genre.
Donc, elle épousera par la suite Max Mallowan, archéologue de son état, qui vaudra de nombreux romans hein, situés en Égypte, Syrie, Irak, Turquie, etc. Mais maintenant, je vous propose... Donc on parle d'une autre grande dame anglaise, bien sûr, sacrée nouvelle reine du crime. Il s'agit de Phyllis Dorothy James, dite P.D. James. Elle est née le 3 août 1920 à Oxford et décédée le 27 novembre 2014. Et à 94 ans, dans la même ville. Donc son premier roman, Cover Her Face, à visage ouvert, paraît en 1962. Et son dernier, La mort s'invite à Pemberley, en 2011. Elle obtient le grand prix de littérature policière en 1988 pour son roman, Un certain goût pour la mort. Et elle recevra plus d'une dizaine de prix. Elle est anoblie en 1990 par la reine Elisabeth II, qui l'a fait baronne James of Holland Park.
Oui, anoblie comme Agatha Christie, qui le fut avant elle en 1971. Voilà. La reine Elisabeth II devait aimer le genre policiers. Polar.
Alors, je vous propose d'écouter tout d'abord un essai sur le roman policier que P.D. James a écrit en 2020.
Plus que tout autre sujet, la mort semble fournir à l'esprit anglo-saxon une intarissable source de plaisir innocent. C'est ce qu'écrivait Dorothy L. Sayers en 1934. Bien entendu, elle pensait au meurtre. Toutefois, pas au meurtre sordide, malpropre et quelquefois pathétique de la vie réelle, mais aux histoires bien plus élégantes et mystérieuses concoctées par les auteurs de romans policiers. De plus, si l'on en juge par la popularité universelle du genre, les anglo-saxons ne sont pas seuls à partager cet enthousiasme pour le plus noir des crimes. Du Groenland au Japon, des millions de lecteurs se sentent tout à fait chez eux, dans le sanctuaire étouffant de Sherlock Holmes, au 221 B Baker Street, dans le charmant cottage de Miss Marple, à Saint Mary Maid et dans l'élégant appartement de Lord Peter Wimsey sur Piccadilly. Rien de tel qu'un puissant mélange de mystère et de violence pour unir l'humanité entière. Lorsque je me suis lancé dans l'écriture de mon premier roman, au début des années 60, j'eus immédiatement l'idée de commencer par un policier, en partie parce que ce genre hautement codifié est une méthode d'apprentissage admirable pour tout écrivain qui aspire sérieusement à devenir romancier. J'avais toujours apprécié ce type d'histoire. Dorothy L. Sayers était une source d'inspiration puissante et j'étais fasciné par ce défi, créer du nouveau avec des conventions maintes fois rebattues. Une mort mystérieuse au cœur de l'histoire, un cercle fermé de suspects, chacun avec un mobile plausible, l'arrivée du détective, semblable à celle d'un dieu vengeur, dans un mystère médiéval, une solution finale que le lecteur pouvait découvrir par lui-même, en utilisant avec logique et méthode les indices fournis. Des indices présentés de manière astucieusement trompeuse et pourtant fondamentalement acceptable pour le lecteur. Au cours de mes lectures, ce n'était pas le mystère à résoudre qui m'intriguait le plus, et il m'arrive de penser que de moins en moins de lecteurs sont à l'affût de chaque indice, notent chaque retournement de l'intrigue et reniflent avec bonheur chaque appât douteux que l'auteur leur présente. Ma plus jeune fille, après avoir lu mon dernier livre, a déclaré tout simplement « Ça ne peut pas être elle ou lui le coupable, tu les aimes trop ». J'ai bien peur que la plupart d'entre nous devinent qui tuer le meurtrier grâce à leur connaissance de l'auteur, de son style, de ses préjugés et de ses points faibles, plus qu'à l'attention minutieuse qu'il porte à chaque détail de l'intrigue. C'est à l'auteur que nous opposons notre sagacité, plus qu'à ses criminels ou à ses détectives. Et donc, si deviner correctement l'identité du meurtrier n'est pas toujours le principal intérêt, qu'est-ce qu'il est vraiment ? C'est peut-être le plaisir ancestral et universel que nous procure une histoire bien racontée, avec un début, un milieu et une fin, un récit qui nous transporte dans un monde où nous savons que la justice sera finalement rétablie, les coupables mis à nu, les innocents vengés et où la raison triomphera. C'est peut-être le frisson de la terreur et du danger par procuration, alors que nous sommes assis en sécurité au coin de notre cheminée ou que nous tirons plus douillettement la couverture sous notre menton. Et surtout, dans un monde de plus en plus violent et irrationnel, dans lequel tant de problèmes de société semblent insolubles, le roman policier nous offre le confort psychologique d'une histoire bâtie sur les prémices que le meurtre reste le crime par excellence, que même le personnage le plus désagréable a le droit de vivre sa vie jusqu'à sa fin naturelle, et qu'il n'y a pas de problème, même des plus difficiles, que la sagacité, l'intelligence et le courage des êtres humains ne puissent résoudre. J'imagine que ce sont là certaines des raisons qui me font apprécier les romans policiers. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle j'ai choisi d'en écrire. L'un des plaisirs annexes de ce type de lecture, c'est de découvrir des choses nouvelles, de faire incursion dans des mondes variés et fascinants. Certains disent qu'un bon roman policier consiste en 25% de mystère, 25% de psychologie des personnages et 50% de ce que l'auteur connaît le mieux. Pour ma part, j'ai découvert avec beaucoup de plaisir le monde des courses de chevaux chez Dick Francis, celui du théâtre chez Ngayo March, l'univers de la banque chez Emma Latten et celui des fondeurs de cloches chez Dorothy L. Sayers. Le cadre de l'intrigue joue également un rôle primordial pour nous transporter dans un autre monde. Ross MacDonald nous fait comprendre la vie en Californie avec plus de profondeur et d'acuité que n'importe quel livre de voyage. En compagnie de Van der Waal, de Nicolas Freeling, j'ai parcouru les ponts d'Amsterdam. J'ai étouffé sous la chaleur oppressante de Bombay avec l'inspecteur God de H.R.F. Keating, tandis que tous les bruits et les odeurs de Paris remontent des pages de Simenon. Au risque de décevoir les inconditionnels du roman policier, je dois admettre que je ne suis pas accro à ma dose journalière au point d'accepter une drogue qui n'a pas la force ou la qualité exigée. Je fais un tri très sélectif pour mes lectures et, je dois l'admettre, mes choix sont plus ou moins arrêtés. Malgré mon admiration pour les excellents auteurs que sont Raymond Chandler et Dashiell Hammett, leur influence non seulement sur le genre policier mais aussi sur le roman moderne est indiscutable, les fusillades qui vous prennent aux tripes et les bains de sang ne sont pas vraiment ma tasse de thé. Je préfère les meurtres plus casaniers, le contraste entre une société bien ordonnée et l'irruption choquante et contagieuse de la mort violente. Les auteurs que je préfère, Dorothy L. Sayers, Marjorie Allingham et Ngayo March, sont toutes expertes en noirceur domestique et illustrent la maxime de W.H. Auden, le cadavre doit choquer, non seulement parce que c'est un cadavre, mais aussi parce que, même pour un cadavre, il n'est absolument pas à sa place, comme lorsqu'un chien se laisse aller sur un tapis. Ces trois auteurs respectaient les conventions du genre, et pourtant, toutes trois ont contribué à faire passer ce genre du rang de casse-tête sous littéraire à celui d'ouvrage pouvant aspirer sérieusement au nom de roman. Toutes trois comprenaient l'importance du cadre et de l'atmosphère. Toutes étaient capables de créer des personnages qui n'étaient pas seulement des stéréotypes attendant d'être abattus par le détective, comme des silhouettes en carton-pâte. Toutes ont installé leur intrigue sans équivoque dans un lieu et un moment précis de l'histoire et ont essayé d'une manière ou d'une autre de combiner roman policier et réalisme social. Je mettrai les 9 tailleurs de Dorothy L. Sayers en bonne position sur la liste de mes livres favoris, tandis que La nuit du tigre de Marjorie Allingham est probablement un des meilleurs romans policiers jamais écrits. Le contraste saisissant entre le meurtrier, Jack Havoc, et le doux mais implacable Cannon Avril réduit à néant la critique qui ferait du policier un genre sans importance, pour lequel ces grands absolus que sont le bien et le mal seraient et resteraient à jamais hors de portée. Il est intéressant de noter que ces trois écrivains sont des femmes, comme bien sûr l'était cet autre phénomène, la reine du crime, Agatha Christie. Une grande dame qui, pour moi, est moins une romancière qu'une magicienne de la littérature, dont les tours de passe-passe, tout en battant les cartes de son jeu de personnages, peuvent tromper les regards les plus perçants. Parce que ce quatuor d'expertes féminines du meurtre domine les autres, une question revient souvent. Comment se fait-il que de respectables dames de la classe moyenne soient expertes en meurtre? Il se peut que la violence littéraire soit notre manière de sublimer nos pulsions agressives ou encore de nous débarrasser de nos anxiétés et sentiments de culpabilité irrationnels, mais je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de plonger dans la psychologie pour trouver une réponse. Élaborer des indices exige un regard acéré sur les détails de la vie quotidienne, un domaine où les femmes excellent. Qui était où, avec qui et quand? Qui a mangé la salade empoisonnée et qui l'avait préparée? Quel type de femme porterait le rouge à lèvres violet retrouvé près du corps? Qui a fermé à clé la porte de la bibliothèque et quand? À quelle heure précisément a-t-elle été remarquée pour la première fois cette tache rouge révélatrice sur le sol de la chambre? De plus, les femmes sont particulièrement douées pour disséquer les mobiles d'un meurtre, ces tensions, intrigues, jalousies, rancœurs qui empoisonnent le cercle fermé, apprécié des auteurs de policiers et qui trouvent leur apogée dans le crime. Rien de plus facile que d'écrire un mauvais policier. Rien de plus difficile que d'en écrire un bon. La construction, en soi, pose un problème délicat. Il y a tant à faire en l'espace de 80 à 90 000 mots, la longueur moyenne de ce type d'ouvrage. Il faut brosser clairement le personnage du détective, de la victime, et celui d'une demi-douzaine de suspects dans certains cas. Leur psychologie à tous doit être crédible, la méthode du meurtre doit être vraisemblable, et si possible original, le décor doit à la fois influencer et mettre en relief l'atmosphère de l'histoire, le dénouement, le chapitre le plus difficile à réussir, doit être à la fois satisfaisant et excitant d'un point de vue intellectuel. On pourrait comparer le tout à l'un de ces casse-têtes ingénieux faits de pièces de bois à la forme bizarre qui, une fois assemblées, forment une sphère parfaite. Pour atteindre ce but, il faut établir un plan minutieux, avant même d'écrire le premier mot. D'ordinaire, je note avec soin non seulement le temps qu'il fait, le lieu, les personnages, mais aussi l'endroit où il se trouvait au moment crucial du crime. J'essaie de décrire le meurtre de manière réaliste, et parfois on me demande si je me fais peur à moi-même. La réponse est non. Il arrive que les livres des autres m'effraient, jamais les miens. Peut-être que, paradoxalement, l'écrivain doit à la fois s'impliquer complètement et pourtant rester détaché de son travail. Et qu'en est-il de l'avenir? Cela fait des années que les critiques annoncent la fin du roman policier, tout du moins dans sa forme traditionnelle. Un critique du XIXe siècle écrivait à propos de Conan Doyle: « Si l'on tient compte de la difficulté à imaginer des situations plus ou moins inédites, il est certain que le sensationnel devra bientôt fermer boutique. Certes, il n'est pas facile d'inventer chaque fois une manière originale de commettre un meurtre, mais par ailleurs, les décors exotiques et quelquefois bizarres de certains policiers modernes démontrent jusqu'où la recherche désespérée de nouveaux lieux et d'idées innovantes peuvent entraîner. C'est par des milliers de portes que la mort peut donner congé à la vie. Et la plupart d'entre elles ont dû être utilisées à ce jour. Mis à part les méthodes classiques évidentes, pare-balles, pendaison, étranglement, Le trépas des malheureuses victimes a été causé par des sonneries de cloches prolongées, par une lame de glace utilisée en guise de poignard, par une balle tirée à l'aide de la grande pédale d'un piano, par du poison déposé au dos d'un timbre, par l'injection de bulles dans le sang. Quelques-unes sont même mortes de peur. Et pourtant, le marché du sensationnel est florissant, offrant à chaque nouvelle génération de lecteurs détente innocente, distraction et réconfort. De nos jours, l'accro au roman policier est bien sûr plus exigeant que son prédécesseur, à la grande époque des meurtres dans un manoir, en des temps où le majordome faisait obligatoirement partie de la distribution, où la bibliothèque était, sans conteste, la pièce la plus dangereuse d'Angleterre et où le détective était invariablement un amateur de bonne famille au talent surhumain, tandis que les policiers professionnels n'étaient que des bouffons à vélo, tripotant leur chapeau avec déférence en s'adressant à leurs supérieurs. Le dénouement avait lieu après dîner, en présence de tous les personnages en tenue de soirée, au moment où le meurtrier, qui se révélait être le plus improbable des suspects, était démasqué. Il n'était pas rare qu'il ait l'élégance de se suicider pour éviter au lecteur le désagrément de penser au bourreau. Les romans policiers modernes ont dépassé de cette naïve simplicité, et les écrivains dont les œuvres survivront sont ceux qui réussiront la tâche difficile de mêler histoire palpitante et déduction rationnelle gratifiante, comme le veut la tradition, aux subtilités psychologiques et ambiguïtés morales d'un bon roman. Ainsi que l'écrit Robert Browning, nous sommes là vraiment sur cette arête tranchante où l'écrivain explore le plus grand des mystères, le cœur humain, et où, au chapitre final, il n'y aura certainement pas de réponse claire et nette, pas même pour un Hercule Poirot ou un Lord Peter Wimsey. Bon, autrement dit, le polar se raffine de nos jours.
Alors, tu as fait une petite découverte, là, voilà.
Voilà, élémentaire, mon cher Watson. Oui, on avait dit que ce petit essai sur le roman policier avait été écrit en 2020. Or, P.D. James est morte en 2014. Donc, c'est plutôt la parution, n'est-ce pas, qui a eu lieu en 2020.
Posthume.
Mais c'est le fantôme de P.D. James. Voilà. Donc, tu aurais fait un bon détective, tu vois, parce que t'as tout de suite trouvé.
Absolument.
L'erreur.
Je suis prêt pour une seconde carrière.
Ça va pas du tout. Donc, alors, pour P.D. James, eh bien, menant de front à son travail à l'hôpital et son travail d'écriture, elle s'attelle à la tâche tous les matins entre 6h et 8h. Donc, elle va envoyer son premier manuscrit, à visage couvert, en 62 à Faber & Faber, qui l'accepte immédiatement. Et elle dit, je me demande encore comment j'ai pu trouver le temps, en 61, d'écrire mon premier livre, à visage couvert, qui fut heureusement un succès. Malgré la mort, les maladies, les tragédies, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance, que la vie m'a gâtée, m'a confié l'autrice. Hein. Et il s'agit d'un roman à énigme assez classique, hein, mais dans lequel elle s'attache déjà à la psychologie de son personnage, Adam Dalgish, qui tiendra le rôle principal dans 14 romans de son œuvre. Ensuite, elle travaille au département judiciaire, en service de médecine légale, puis elle va exercer la fonction de magistrat jusqu'en 1984, section juridique de la brigade criminelle, ce qui, bien sûr, a enrichi sa connaissance du système policier et juridique. Pendant tout ce temps, elle écrit et bâtit pas à pas une œuvre littéraire, dans laquelle elle crie avec raffinement la société qui l'entoure. Chacun de ses romans s'écoule à plus de 300 000 exemplaires quand même en Grande-Bretagne.
Oui, il y a un parallèle dans ce que tu viens de dire, Mireille, avec Agatha Christie. On voit comment leur vie professionnelle ou autre s'intrique avec leur métier d'écrivain, parce que finalement, elles vont puiser dans leurs connaissances professionnelles les éléments qui leur permettent d'écrire.